Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
6h-7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
Et nous y sommes, et quel plaisir sincèrement de vous retrouver comme chaque week-end sur RMC. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h, vous le savez, le week-end des experts, votre rendez-vous du samedi et du dimanche avec les meilleurs experts de France. Ne nous voilons pas la face les amis, ils sont là, ils sont exclusivement sur RMC. Demain dimanche, 3h d'auto, Jean-Luc Moreau avec toutes vos questions auto, et puis un spécial quiz avec Maître Rémi Jossomme, à ne pas manquer, je vous le conseille. Et puis en ce dimanche matin, vous le savez, on terminera ce week-end des experts tout à l'heure entre 9 et 10 avec la vie numérique et Raphaël Grabli. On évoquera le cyberharcèlement. C'est un sujet sérieux qu'il faut traiter de manière, on va dire, précise. On en parlera avec nos invités, mais il y aura bien sûr évidemment toutes vos questions vie numérique. Si par exemple vous voulez changer de smartphone, ce sera tout à l'heure entre 9 et 10. 8-9, vous le savez, le docteur Christian Ricca. On évoquera tous les bobos de l'été. Alors, les petits, des petites blessures musculaires, des petites chutes, etc. Et puis des choses un petit peu plus importantes comme les noyades. Ce sera avec Christian tout à l'heure.
Les bobos parisiens.
Non, ce n'est pas les bobos parisiens. Ce n'est pas ceux-là. Quoi qu'ils seront aussi à la plage. La maison avec Christian PC78. Alors, on évoquera un sujet qu'on n'a jamais fait avec Christian, c'est le feu d'artifice, tiens. Est-ce qu'on peut, alors on est quasi à la veille du 14 juillet, organiser un petit feu d'artifice on a une propriété, quelles sont les limitations? Que dit la législation là-dessus? Comment se procurer aussi des feux d'artifice Eh bien, on verra ça tout à l'heure avec un vrai spécialiste. C'est la première fois qu'on fera ce sujet et ça a l'air très intéressant. Et puis pour débuter, vous le savez, 6h-7h, c'est le jardin. Il est là, c'est Patrick Mulan, bien sûr. Bonjour Patrick.
Bonjour à tous, bonjour François, bienvenue au jardin. Oui, il fait un peu chaud dans le jardin, il fait surtout un peu sec. Il faut ressortir les arrosages, il faut ressortir les tuyaux, parce que vraiment, actuellement, on va dire que tous les trois jours, faut en donner de l'eau. Alors attention, on a tendance à faire un petit pipi comme ça avec un tuyau et puis...
Vous faites pipi dans le jardin vous ?
Le tuyau,
c'est une image,
un pipi,
bien sûr.
C'est vraiment très nettement insuffisant.
Oui.
Par exemple, si vous prenez un hortensia qui est vraiment la plante du moment, il faut bien lui donner au moins une dizaine, douzaine de litres tous les trois jours.
Et 10, 12 litres, tout dépend le débit du tuyau, ça peut prendre plusieurs minutes. Attendez, c'est pas anodin.
Et c'est tellement compliqué que maintenant je suis repassé à l'arrosoir.
Moins comme ça, vous savez.
Oui.
Combien vous mettez de litres?
Parce que j'avais l'impression d'arroser, et puis je voyais que les plantes, elles rebaissaient du nez rapidement. Donc faites attention à bien donner la bonne dose, la bonne quantité. Là, il ne fait pas trop chaud, donc on peut encore mettre un petit peu d'engrais. Mmh. On va en parler là tout à l'heure, dans l'eau. Mais dès que vous aurez une température qui va dépasser les 26-27 degrés, là, on ne met plus d'engrais.
Ce qui est le cas dans le sud. Dans le sud, il fait très chaud. Mais on fera un point sur la météo du jardinier.
C'est l'été, c'est facile. C'est,
bien sûr. Et qui dit été dit... Ne bougez pas, Patrick.
Ne
bougez pas, je crois que vous en avez un sur le nez. J'arrive.
Vous savez ce que je croyais? C'était le début de « Il était une fois dans l'Ouest
». Ben vous savez, parfois, quand il est 3h du matin, qu'on est dans la chambre, qu'on se lève et que c'est un face-à-face avec le moustique, ça me fait vraiment penser au duel de « Il était une fois dans l'Ouest ». C'est moi qui vous le dis. Vous l'avez compris, on va faire un spécial moustique tout à l'heure. Risques et désagréments, comment s'en protéger de ces moustiques?
On aura un spécialiste avec nous parce que c'est vraiment un sujet très particulier et on trouve absolument de tout et de n'importe quoi pour lutter contre les moustiques. Et là, on prendra quelque chose de tout à fait, on va dire, manière naturelle. Pour une fois, c'est vraiment un truc naturel, puisqu'on ne met pas de produit ni rien, on va les piéger de façon intelligente.
Voilà, et puis on se dit, mais quel rapport les moustiques et le jardin? Mais il faut savoir que si vous avez une terrasse ou un jardin, la plupart du temps, si vous avez des moustiques, c'est de votre faute. Parce que vous laissez des petites flaques d'eau, parce qu'il y a des petits points d'eau où les moustiques se propagent.
Exactement.
Et se reproduisent. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on en parle.
On parle aussi, oui, de la prévention.
Et donc, toutes vos questions jardin, nous sommes en direct. Le 32-16, l'appli RMC, Direct Studio. Merci d'être là. Bienvenue à vous toutes et à vous tous, 6h12. Et on commence ce week-end des experts avec Françoise. Bonjour, chère Françoise.
Bonjour.
Et quel joli prénom en plus.
N'est-ce pas?
Oui.
C'est le meilleur.
Oui, j'osais pas le dire. Mais comme c'est vous qui le dites, ça va, ça passe.
Non, mais c'est classique, c'est bien.
Vous nous appelez d'où, Françoise?
Alors, je vous appelle des Alpes de Haute-Provence et je suis entre Forcalquier et Manosque.
La classe.
J'y étais il y a 15 jours là, pour les lavandes. Là.
Ah,
c'était le beau moment. Oui.
Vous n'avez pas croisé Françoise, Patrick?
Les miennes sont coupées, ça y est.
Ah ben voilà, ils ont commencé le 1er juillet, je crois.
Oh, oui, mais j'ai des bouquets plein la maison.
Bah, Françoise, ça fait quoi de vivre au paradis?
C'est merveilleux.
C'est bien, hein?
Pourvu que ça dure.
Mais pourvu que ça... Oui, c'est ça. Pourvu que ça dure.
Étant donné mon grand âge, quand même, je suis plus près de la sortie que de la rentrée.
Bon, écoutez,
donc, voilà.
Attendez, vous savez quoi? Il faut en profiter et vous avez bien raison d'en profiter. Hein.
Exactement.
De temps en temps, un petit peu RMC. Voilà, ça c'est bien. Ah,
tous les samedis matin, là, il n'y a pas de problème.
Parfait. Et Patrick, écoute votre question.
Eh bien, ma question est la suivante. J'ai un figuier, mon grand copain, qui me donne des figues depuis 20 ans, puisque je suis là depuis 20 ans, mais il était là avant moi, hein. Et cette année, eh ben, il me lâche, mon copain.
Ah.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu. Il donne des figues deux fois. La première fois, rien. Et là, pour le mois de septembre, adieu confiture, j'aurais rien non plus.
Oh là 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 là.
Alors, je ne comprends pas, il m'abandonne, mon copain, là.
Il n'y a que ça comme symptôme ou il y a un problème, par exemple, sur les feuilles? Est-ce que...
Rien. Les feuilles sont beaucoup plus petites que d'habitude. Là, il fallait une feuille pour faire un plateau de fromage, par exemple. Mm-hmm. Il m'en faut quatre.
Ouais.
Ah, ouais. D'accord.
Donc vous avez au printemps les feuilles qui ne se sont pas bien développées ou du moins qui sont pas très grandes. Est-ce que vous avez un jaunissement aussi sur certaines feuilles?
Non.
Non. Donc et les fruits en formation où
il n'y en a pas.
Il n'y en a pas eu.
Rien. Ouais.
Alors ça, c'est moins grave que ce que je craignais, parce qu'il y a une maladie gravissime sur le figuier qui s'appelle tout simplement la pourriture racinaire et qui a les symptômes suivants, c'est que dès qu'il commence à faire un petit peu doux au printemps, vous avez une partie ou l'ensemble du feuillage qui jaunit et puis qui se... crispe, qui devient un peu prostré, et puis vous avez les fruits qui commencent à se former, qui brunissent, qui tombent avant. Et donc petit à petit, le figuier est en train de mourir, tout simplement parce qu'il est attaqué par un champignon au niveau des racines, et on peut strictement rien faire. Bon, dans votre cas, ça ressemble plus, on va dire, à une difficulté de croissance qui est liée, alors peut-être, à la période... qui est quand même un peu difficile ces dernières années avec de longues périodes de chaleur, de sécheresse, etc. Donc, il faudrait voir... Alors, ça dépend du type de sol que vous avez. Parce que si vous avez un sol qui est très drainant, comme celui qu'on voit dans votre région sur les champs de lavande, où vraiment c'est assez caillouteux, etc., et donc l'eau percole rapidement... Ce type de maladie-là ne peut pas se développer, puisqu'en fait, cette pourriture racinaire, elle se développe surtout dans les sols qui sont compacts, étouffants et qui conservent bien l'humidité. Bon, donc si vous êtes sur un sol très drainant, ça veut dire que votre figuier manque d'eau, tout bêtement. Si vous êtes sur un sol compact, humide, là, faut surtout pas arroser. Parce que, de toute façon, c'est un problème qui vient... au niveau des racines, ce genre de choses-là. Il se peut aussi...
Ça vit combien de temps, un figuier?
Un figuier, ça peut vivre une bonne cinquantaine d'années, oui.
Ah, et comme moi, il est plus près de la sortie, alors.
Ah, attendez, quand vous êtes arrivé, il était déjà là, mais il était là depuis un moment ou pas, à votre avis?
Je ne sais pas.
Et bien voilà.
Il a déjà 20 ans, ça c'est sûr.
Non, mais 20 ans, 20 ans, c'est disons la fleur de l'âge. Mais
Était déjà là, donc ça fait peut-être 20 ans qu'il était encore, qu'il était
donc,
déjà
donc
là.
Ce que je voulais dire, c'est que si vous êtes sur un sol drainant, il faut que vous arrosiez. Si vous êtes sur un sol qui est compact, là, il faut s'inquiéter et faut attendre l'année prochaine. Il est possible, parce qu'il ne faut pas non plus imaginer qu'une plante, c'est une mécanique.
Oui, ça peut faire un break. Se dire, bon, cette année, vous savez quoi, les gars, je prends ma petite année sabbatique et je reviens l'année prochaine.
Voilà. Alors, on ne dit pas ça exactement comme ça quand on est jardinier. On dit que c'est l'alternance. Mais ça arrive, bien entendu. Est-ce que l'année dernière, il y avait beaucoup, beaucoup de production?
L'année dernière, j'ai fait 80 pots de confiture. Alors,
voilà.
Oui,
donc, il n'est pas improbable qu'après une très forte production, la plante, hop, se repose un petit peu. Bon, là, il faut être patient, regarder ce qui va se passer. Tant que les feuilles ne se flétrissent pas, tant qu'elles ne brunissent pas, tant qu'elles ne jaunissent pas, ne tombent pas prématurément, ça veut dire que la plante n'est quand même pas en si mauvais état que ça. Mmh. En revanche, si l'année prochaine, par exemple, au départ de la végétation, vous voyez bourgeonnement, les feuilles qui commencent à se développer, puis là, qui jaunissent, ça voudra dire que votre figuier, malheureusement, est condamné à terme.
Aïe. Bon, attendez, Françoise, là, on tire des plans sur les comètes, peut-être que tout ira bien.
Alors, ce qu'on ne fait pas, Françoise, on ne taille pas, on ne met pas d'engrais, on laisse simplement la plante un peu respirer, et si les températures montent, ce qui a été quand même le cas en début de saison, et puis là, quand j'étais allé à Valensole juste avant la récolte des lavandes, il faisait une chaleur de gueux, et bien faut arroser quand même le figuier. Voilà.
Françoise, tenez-nous au courant, et on vous embrasse.
Oui, donc surtout pas de taille.
Non, vous taillez pas, vous mettez pas d'engrais. Rien. À la limite, vous pouvez pailler le sol pour lui laisser une certaine fraîcheur.
D'accord. Merci beaucoup Françoise. 6h18 sur RMC, il est temps de retrouver le conseil de Patrick.
Je vais vous donner un dernier conseil avant que vous partiez.
RMC, l'astuce jardin de Miu Miu.
J'attends ton conseil.
Et aujourd'hui, on va parler de l'engrais.
Voilà, justement.
Très important. Voilà.
Beaucoup plus important que certains qui imaginent que les plantes ne vivent que d'amour et d'eau fraîche. C'est beaucoup plus important que ça. L'engrais, c'est de la nourriture pour plantes. Voilà. Déjà, on va le dire comme ça, en un seul mot.
Alors, on va essayer de comprendre à quoi ça sert l'engrais. Est-ce qu'il faut en mettre dès maintenant, etc. Quelles plantes aussi? Il y a peut-être des plantes qui ont besoin de plus d'engrais que d'autres. Mais peut-être pour commencer, Patrick, essayer de comprendre la genèse de tout ça. Comment les plantes se nourrissent-elles?
Alors, les plantes se nourrissent de deux façons. D'abord, par les racines, qui, en fait, sont simplement des aspirateurs d'eau, des pompes.
Oui.
Donc, elles vont puiser ces racines des sels minéraux qui sont dissous. Déjà, ça, c'est important. Il faut que cette roche-mère qui constitue le sol en s'effritant petit à petit, eh bien, les sels minéraux qu'elle constitue puissent être absorbés. Et ça, généralement, c'est le travail des micro-organismes qui vont décomposer la matière organique, mais qui vont aussi jouer un rôle sur la décomposition, enfin sur la transformation des matières minérales. Ça, c'est la première chose. Et puis après, c'est les feuilles qui, elles, vont transformer ces matières minérales grâce à la photosynthèse en éléments organiques qui nourrissent la plante. Voilà.
À quoi servent les engrais et est-ce que c'est vraiment utile?
Alors, c'est vrai qu'on pourrait se dire, dans la nature, il n'y a pas d'engrais, les plantes poussent normalement, tout va bien, etc.
Avant qu'on arrive ou qu'on soit là, il n'y avait pas d'engrais. Enfin, en tout cas, c'était naturel, si vous voulez.
Mais il faut que le cycle complet puisse se produire. Et surtout, la nature n'a pas un but productif. Donc, dans un jardin d'ornement, par exemple, on va dire, si vous avez que des arbustes, des haies, des arbres, etc., et que votre sol est de qualité, ça va marcher même si vous ne mettez pas d'engrais. En revanche, si vous plantez des géraniums dans un petit bac, dont il n'y a pas beaucoup de terre, donc il n'y a pas beaucoup de nourriture, donc il va falloir les nourrir. Si vous faites un potager, dans un potager, vous faites de la production, avec des cultures qui se renouvellent permanence. Donc, l'exportation des éléments nutritifs du sol se fait et petit à petit, la terre s'appauvrit. Donc, on va vous dire, oui, mais si on fait de la permaculture, qu'on met toujours des trucs, etc. Oui et non. Parce qu'il faut vraiment rapporter, du moins en partie, les éléments que les plantes ont exportés. Et c'est ça, l'engrais.
Alors, il y a quoi dans l'engrais, en fait ?
Alors, dans l'engrais, de base, vous avez essentiellement azote, phosphore, potassium. N pour azote, P pour phosphore, K pour potassium. C'est ces trois lettres que vous trouvez toujours sur les paquets d'engrais. Et c'est important qu'il y ait aussi ce qu'on appelle des oligo-éléments. Et ça, c'est toujours aussi indiqué sur les boîtes d'engrais, parce que ces oligo-éléments, qui par définition sont des substances en très petite quantité, sont absolument indispensables pour un équilibre métabolique de la plante, et notamment pour l'absorption de l'ensemble de ce que la plante a besoin. Et ça, c'est vraiment la base même. On ne met pas que de l'azote, du phosphore et de la potasse, on met l'ensemble des éléments minéraux. Mais il faut aussi penser qu'il faut nourrir les micro-organismes, donc il faut aussi apporter des éléments organiques, donc du compost, du fumier, choses comme ça, pour renouveler la microfaune qui, elle, travaille en permanence au bénéfice des plantes.
Alors, on voit qu'il y a deux catégories d'engrais hein, quand on va dans les magasins, les organiques et les minéraux. Quels sont les meilleurs ?
Alors, on ne peut pas raisonner comme ça en disant quel est le meilleur. Les deux sont complémentaires. Les organiques, qui sont donc composés essentiellement de matière vivante, enfin on va dire de déchets végétaux, par exemple à base de fumier, à base de sang, à base de corne, à base de poudre d'os, etc., sont des engrais qui vont justement nourrir les micro-organismes, mais qui vont se décomposer très 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 lentement. Donc leur effet n'est pas immédiat. En revanche, quand vous mettez un engrais minéral, vous le mettez sous une forme qui généralement est assimilable par la plante, et donc vous la nourrissez tout de suite. Ce que l'on a tendance à faire aussi aujourd'hui, c'est de mélanger les deux, et vous trouvez dans le commerce des organominéraux, qui à mon avis sont la meilleure...
Le bon compromis.
Voilà, exactement, le mot est là, le bon compromis.
Très bien, alors c'est vrai qu'on trouve aussi dans le commerce une multitude d'engrais, pour rosiers, géraniums, hortensias, légumes, palmiers, agrumes, etc. Est-ce qu'il faut, Patrick, acheter systématiquement un engrais pour chaque plante ?
Alors, bon, faut être honnête, bien entendu, c'est essentiellement quand même du marketing, ça. C'est du marketing, mais du marketing pratique, parce que quand vous n'êtes pas du tout jardinier, que vous avez planté une jardinière de géranium, bah, c'est plus simple d'aller dans la jardinerie, de prendre un engrais géranium, comme ça vous êtes sûr que c'est adapté. En revanche, franchement, vous voulez que je vous donne mon secret ?
Allez.
Moi, j'utilise tout. Tous les engrais que je peux avoir, je les mets sur l'ensemble du jardin et ça marche magnifiquement.
L'important, il n'y a pas d'incompatibilité d'engrais avec telle plante.
Alors, là, on va rentrer dans des choses.
Non, d'une manière générale.
Par exemple, les engrais pour gazon, qui sont, enfin, ou pour tout ce qui est feuillage, qui sont quand même riches en azote.
Oui.
Il faut pas trop exagérer parce que la richesse en azote fragilise généralement quand même les plantes. Ça vous donne des tiges qui sont très tendres et qui sont donc plus appétantes pour les pucerons, par exemple. Un excès d'azote peut aussi bloquer l'assimilation de certains éléments, etc. Donc, il faut des engrais quand même plutôt équilibrés. Et je dirais, l'azote, apportez-le par la matière organique, donc par votre compost, par le fumier, etc. Et utilisez des engrais minéraux plutôt sur la potasse et sur le phosphore, parce que l'azote, on en a souvent assez, surtout maintenant qu'on travaille de plus en plus en bio.
Patrick, alors on prend le cas, on va dire, basique. Hein, j'ai une plante qui n'a pas l'air en forme. Est-ce que je dois lui mettre de l'engrais systématiquement ?
Alors ça dépend comment elle n'est pas en forme. Si elle n'est pas en forme comme celle de Françoise tout à l'heure, c'est-à-dire la plante, elle est vraiment inquiétante dans son comportement, là, on ne met pas d'engrais parce qu'on peut obtenir l'effet inverse. Quand vous êtes malade, par exemple, on vous emmène pas au restaurant gastronomique. Vous prenez un régime léger. Donc, quand une plante est pas bien en forme, il vaut mieux l'utiliser à l'eau claire que à l'engrais. En revanche, si la plante a l'air normale, entre guillemets, mais elle pousse pas bien, elle grandit pas. Bah là, on va la nourrir parce que ça veut dire que souvent, elle manque de nourriture. Quand une plante aussi a le feuillage qui jaunit de façon uniforme, ça veut dire j'ai faim.
Patrick, juste pour terminer, en quelques secondes, votre petite astuce. Comment faites-vous justement pour fertiliser vous, votre terre alors, et vos plantes?
Bon, nous qui cultivons beaucoup de choses en pot, on fait la chose suivante, c'est qu'on prend de l'engrais liquide, quel qu'il soit, on met l'équivalent d'un bouchon d'engrais liquide, c'est-à-dire ce qui est donné pour un litre ou un litre et demi d'eau, d'où dans un gros arrosoir de 10 litres. Et on arrose.
Donc c'est très
toujours,
très dilué.
Très dilué, mais toujours.
D'accord. Voilà. Et donc ce qui fait que la plante est tout le temps très légèrement.
Très légèrement alimentée. C'est-à-dire qu'elle ne va pas avoir des coups, vous voyez, des actes. Et ça, c'est mauvais.
Bien. C'est parfait. Merci beaucoup, Patrick. On revient dans un instant. Et dans une minute après la météo, on attaque les moustiques. Ou c'est eux qui vont nous attaquer.
C'est ça.
Ça, vous allez voir. Je ne sais pas trop qui va gagner. A tout de suite.
RMC, jusqu'à 7h.
Votre jardin. RMC.
6h-7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
Je fais la sieste moustique. Arrête un peu ta musique. Ne sois pas antipathique.
Joe Dassin.
C'est Joe Dassin, et oui. Ne me pique pas.
Ne me moleste pas.
C'est Jacques Brel qui aurait pu chanter ça. Ne me pique pas. Mais bon, là, on va parler des moustiques maintenant sur RMC. C'est vrai que c'est un fléau, hein. Enfin, un fléau, en ça enquiquine, hein, l'été. Hein. Ça, il n'y a aucun problème. Pourquoi on parle du moustique dans ce rendez-vous jardin? Ben parce que la plupart du temps, c'est dans votre jardin, sur votre petite terrasse, que le moustique prend vie, Patrick. Hein, on est d'accord. C'est là que tout commence.
Sur la terrasse, ou sur, plutôt dans le jardin, dans les endroits qui restent assez humides, dès que l'eau est stagnante, pas forcément très profonde, parce que la moustique pond dans l'eau.
Oui, c'est la fille qui, enfin la mâle, la dame.
Alors c'est la dame qui va nous piquer, mais c'est elle aussi qui pond. Et quand elle pond, elle a besoin d'un milieu aquatique.
Et alors, monsieur moustique, lui, il est gentil.
Alors, monsieur moustique, il butine un peu les fleurs.
Il est plutôt cool. Alors, pour en parler, nous avons un invité.
Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire, parce que c'est quand même un monde particulier, surtout dans la lutte anti-moustique. Donc, on va recevoir Antoine Cohen, qui est un expert de la lutte anti-moustique chez Biogent. Alors, je ne sais pas si on dit Biogent ou Biogent ou Caillard.
Bon, on va lui poser la question. Bonjour Antoine.
Bonjour Antoine, bienvenue.
Bonjour.
Comment prononce-t-on votre société?
En fonction des pays, ça va de Biogent à Biogent.
Et en France, vous dites comment?
On dit plutôt Biogent.
Biogent, ok.
Biogent. Alors, justement, une brève présentation des moustiques, s'il vous plaît, Antoine, parce que, notre ami François avait l'air de minimiser un petit peu en disant « Oui, bon, c'est un peu embêtant comme ça. » Ça va quand même beaucoup plus loin.
Ça va beaucoup plus loin. Il y a certaines zones où même aller dehors devient problématique. Donc, effectivement, ça va un petit peu plus loin. En France, on a de nombreuses espèces, mais je dirais que les deux principales espèces qui posent problème, c'est donc le moustique tigre et puis le moustique commun, donc l'Aedes albopictus et le culex. Surtout l'albopictus, le tigre, qui lui pique en journée et donc va avoir une nuisance quand même beaucoup plus forte que ce qu'on pouvait connaître il y a 10 ans en arrière avant qu'il colonise la France.
Mais surtout qu'en plus, il est porteur de risques de maladies, hein, au niveau du moustique tic, chikungunya, dingue.
Oui, enfin, toutes ces réjouissances.
C'est pas quand même sympa. Alors, tiens, justement, on en est où dans l'activité des moustiques en France, et notamment des moustiques tigres? Pendant une certaine période, c'était assez cantonné dans le sud, et puis c'est monté assez rapidement. Est-ce qu'il y en a partout aujourd'hui dans notre pays?
Pas encore, mais on en a déjà dans une bonne moitié du pays, je dirais, jusqu'à la région lyonnaise, toute la partie sud, jusqu'à Bordeaux, et après on commence à avoir des souches assez importantes sur Paris aussi, et la région parisienne.
Donc ça, c'est vraiment le moustique qui est le plus embêtant. D'ailleurs, une question, au niveau de la piqûre, est-ce que la piqûre du moustique tigre, elle fait plus mal, entre guillemets, que celle du culex, ou c'est similaire?
Alors, elle fait pas plus mal, mais il a une... Parce que le moustique, au moment où il va vous piquer, il va vous injecter une sorte de salive qui va en même temps rendre votre sang plus liquide pour éviter la coagulation et vous faire une sorte de petite anesthésie. Et certaines personnes ont des réactions un peu plus... prononcé sur cette salive-là, et donc on verrait des gros boutons où ça gratte plus, ça fait plus mal, mais la piqûre reste la même.
Quoi. Parce qu'en fait, quand on a un bouton, c'est pas la conséquence de la piqûre, c'est le petit anesthésiant, et on a une réaction allergique, en fait, c'est ça?
Voilà, en gros, c'est le cumul de la piqûre et de ce petit anesthésiant et sa petite salive, en fait, qui fait que ça nous fait une réaction, et certaines personnes ont des réactions qui peuvent aller jusqu'à des boutons qui deviennent assez importants.
Alors, est-ce que le moustique tigre est plus urbain que rural?
Il est plus urbain, oui, parce qu'il va avoir tendance à coloniser des petits points d'eau, parce que la femelle pond à sec, comparativement à beaucoup d'espèces qui vont pondre directement sur l'eau. La femelle, elle, va pondre à sec, donc elle va même aller mettre ses œufs dans des endroits où il n'y a pas forcément encore de l'eau, mais où l'eau va avoir tendance à venir ou a déjà été présente. Donc, il va coloniser plus en ville, parce que il y a plus facilement possibilité de trouver des petits points d'eau dans des communes, dans les villages, les villes, qu'en pleine forêt ou dans la campagne. Malgré que son gîte d'origine sont les creux d'arbres, donc il arrive quand même à coloniser aussi les forêts et autres.
Donc les jardins sont quand même des lieux privilégiés, on va dire, pour la densité des moustiques, et notamment par... Est-ce qu'ils pondent carrément dans les pelouses, les moustiques tigres?
Non, ils pondent quand même sur des surfaces, ils vont plutôt privilégier des coupelles, des arrosoirs, des évacuations de terrasses, mais en gros, on estime qu'à peu près 80% de la reproduction du tigre se fait chez les gens.
Alors voilà, c'est ça, donc c'est un peu à cause de nous s'ils prolifèrent, on est d'accord?
Oui, un petit peu.
Mais oui, d'ailleurs ça a été...
C'est surtout de la méconnaissance, je dirais, de sa façon de se reproduire, qui fait qu'on l'élève sans trop le savoir.
Donc ça a été un peu la réflexion de votre entreprise Biogens, donc de se dire comment le moustique identifie-t-il sa proie humaine de manière à ce qu'on arrive à le piéger.
Voilà, c'est plus de 16 années de recherche en laboratoire pour détecter exactement les acides du corps humain que le moustique va suivre pour nous trouver et les isoler, les reproduire et les diffuser pour se rapprocher au plus proche de l'être humain de façon à leurrer le moustique, en fait, en lui faisant croire qu'on a un humain dans le jardin qui attend gentiment de se faire piquer.
Parce que Antoine, excusez-moi Patrick, mais Antoine, c'est vrai que le moustique ne voit pas, enfin je sais pas, peut-être qu'il voit, mais peut-être qu'il, je sais pas s'il arrive à détecter Patrick, si par exemple il passe à côté. Comment va-t-il détecter une présence humaine, en fait?
En fait, il va suivre ce qu'on appelle la plume olfactive. Donc naturellement, notre corps va dégager de différentes odeurs acides, du CO2, et le moustique, lui, il a dans son nez plein de capteurs, en fait, des milliers de capteurs. Il y en a même encore qu'on découvre aujourd'hui, on ne sait pas encore à quoi ils servent. Et il va, par ces capteurs, détecter certaines de ces odeurs et les suivre jusqu'à remonter à nous, en fait, jusqu'à nous trouver. C'est comme ça qu'il nous traque.
Alors, c'est en partant de cela que votre entreprise a développé un système de piégeage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le fonctionnement?
Bien sûr. Alors, comme je vous disais, donc on a isolé certaines odeurs acides du corps humain qui sont très attractives, voire les plus attractives pour le moustique.
Parce que le CO2, ça suffit pas.
Alors le CO2 tout seul ne suffit pas parce que en fait s'il y a besoin que ça soit quelque chose de panaché et qui se rapproche de la réalité de ce que l'insecte recherche puisqu'il répond à des signaux, il n'a pas de réflexion pure sur ce qu'il va faire. Et donc il faut vraiment se rapprocher au plus de ces signaux pour le leurrer et vraiment lui faire croire qu'il y a un humain. Donc on va, avec un système d'aspiration-expiration, diffuser ces imitateurs d'odeur de manière à se rapprocher au plus proche de ce que je disais tout à l'heure, la plume olfactive de l'être humain, donc de vraiment diffuser comme si c'était un corps humain qui diffusait ces acides. Et une fois que le moustique va s'approcher, il va se faire aspirer dans un filet et mourir capturé à l'intérieur.
Alors est-ce qu'il faut brancher?
C'est bien fait pour lui.
Il faut un système électrique pour que ça fonctionne?
Alors oui, le piège a besoin d'être branché sur secteur, puisqu'il faut que le ventilateur soit actif 24h/24, de façon à capturer aussi bien le tigre que le culex, le moustique commun qui vient à 3h du matin nous voler dans l'oreille. Donc il a besoin d'être branché constamment. Après, on a des systèmes qui peuvent fonctionner sur panneaux solaires pour des plus grosses installations, mais chez un particulier, on conseille la prise électrique.
Et sur batterie, non?
sur batterie, on n'a pas assez d'autonomie pour. Il faudra changer la batterie trop régulièrement. Et du coup, c'est pas très intéressant. C'est surtout tout ce qui est service de santé ou les services de veille qui travaillent sur batterie pour des tests sur 24-48 heures.
Alors, vous nous écoutez, vous avez des questions sur les moustiques parce que vous êtes débordé par les moustiques et que franchement, c'est une vraie nuisance. Vous voulez nous joindre, profitez-en. Hein, 32-16, le standard RMC Amina vous attend et vous avez aussi Direct Studio. Hein, vous pouvez à tout moment nous joindre via l'appli RMC. Moi, j'avais une petite question. Est-ce que à l'œil nu, je peux détecter le moustique tigre? Est-ce qu'on voit la différence avec un moustique traditionnel?
Oui, ils ont pas du tout la même morphologie. Le tigre, il est vraiment noir et blanc, strié noir et blanc. Et du coup, même en vol, avec un regard aiguisé, on arrive à voir.
Alors, que c'est un on devrait l'appeler zèbre en fait, parce qu'il est noir et blanc. Alors que le tigre, c'est jaune et noir.
C'est-à-dire que il a quelle taille? Il est à la taille d'un moustique normal?
Il est un peu plus petit, bien que. Il commence à évoluer en taille. Quand il est arrivé en France, il avait une taille quand même relativement petite comparativement au commun. Et petit à petit, il peut être de presque de la taille d'un culex, comme il peut être vraiment très petit.
Ah oui.
Il y a pas de.
Ouais, et on ça explique va ça comment
un peu de son gîte de reproduction. En fait, c'est les 5 premiers jours de la larve, c'est un peu un poisson, et du même principe qu'un poisson dans un aquarium. Bah, plus il va avoir de place pour se développer, plus la larve va prendre de gras, et plus ça va, le gîte sera petit, moins elle aura de place, et donc le moustique sera plus petit.
Ah ouais. Alors, on va revenir sur votre système de piégeage. Où est-ce qu'il faut le disposer? Est-ce qu'il faut le placer près de l'endroit où on se trouve, ou au contraire dans le jardin?
Alors plutôt dans le jardin, et ce qu'on conseille, c'est d'aller chercher des endroits ombragés et humides pendant les heures chaudes de la journée, parce que le moustique tigre, étrangement, il vit l'été, mais il craint les fortes chaleurs. Donc si par exemple il reste de midi à 3 heures en plein soleil, il va mourir déshydraté.
Ah oui, donc il n'aime pas le désert par exemple.
Voilà, enfin, ici, mais pendant les heures vraiment très très chaude, il va aller se mettre dans ce qu'on appelle les gîtes de repos, donc des endroits un peu ombragés, humides, où il va rester hydraté et attendre que la température baisse pour passer à l'attaque.
Ah oui, s'il reste au soleil, il se dessèche en fait.
Ouais, s'il reste 3 heures au soleil, il va mourir. Nous, c'est ce qu'on conseille quand les personnes changent les filets des pièges, pour faire mourir les moustiques encore vivants, c'est soit de les laisser au soleil, soit de les mettre au congélateur. le froid et le chaud, c'est les deux meilleurs moyens de...
Ah oui, le congélateur,
alors, c'est... Alors, est-ce que le piège doit être... en fonctionnement 24 heures sur 24?
Oui, 24 heures sur 24, parce qu'on va, comme je disais, avoir un effet autant sur le moustique tigre que sur le moustique commun. Donc c'est important de le laisser tourner constamment. Ça a une consommation électrique vraiment très faible, donc ça ne fera pas de différence sur la facture, mais par contre, ça fera des différences sur la vie dans le jardin.
Alors Antoine, Patrick, on a Patricia qui nous pose une question sur Direct Studio. Visiblement, son mari récupère l'eau des toits. Ce qui est plutôt pas mal, il met ça dans des tonneaux, et donc forcément ça doit faire venir les moustiques, tout ça. Et Patricia demande si en mettant une pastille d'eau de Javel dans ces tonneaux, ça pourrait limiter en fait la prolifération des moustiques.
Alors, techniquement oui, mais de ce qu'on a testé avec ça, il faut quand même qu'il y ait une densité de Javel qui soit vraiment importante pour que la larve en meure. Du coup, ça rendrait l'eau, je pense, s'il l'utilise après pour le jardin, pas très très saine. Donc, ce que je conseillerais plutôt, c'est de les fermer hermétiquement avec des moustiquaires, de façon à ce que le moustique puisse pas y rentrer ni en sortir.
On revient dans un instant. Antoine, vous restez là. On a encore pas mal de questions. On a Naïm, par exemple, qui est un petit garçon de 2 ans et qui doit se faire évidemment dévorer par les moustiques. Ça, c'est incroyable de voir certaines peaux d'enfants attaqué par les moustiques, c'est effroyable. Et il aimerait savoir s'il existe des répulsifs naturels pour protéger son fils. Et puis, bien sûr, à tout moment, vous pouvez nous joindre. Le 32-16, l'appli RMC Direct Studio, c'est le week-end des experts. On revient dans une minute avec Patrick et Antoine Cohen, notre invité.
RMC, jusqu'à 7h.
Votre jardin. RMC,
jusqu'à 7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
Voilà, il est 7h moins le quart, un grand bienvenue à vous, si vous venez d'arriver sur RMC, c'est le week-end des experts et c'est le jardin, et dans notre rendez-vous jardin, ce matin, nous évoquons un petit bestiau qui, justement, prolifère dans nos jardins, sur nos terrasses, il s'agit du moustique, on en parle avec Antoine Cohen, qui est un spécialiste, hein, puisque en fait il travaille chez Biogen Skyar, qui en fait combat les moustiques avec des pièges. Antoine, justement, se posait la question avec Patrick Mulan pendant la pub, est-ce qu'il faut plusieurs pièges si on a par exemple une grande maison ou un grand jardin?
Alors, bah, ça va dépendre, ouais, de la superficie à protéger. On peut avoir besoin de plusieurs pièges. On peut aussi faire un ajout de CO2 sur le piège, ce qui va augmenter significativement son taux de capture et donc son périmètre d'action. Donc, en fonction de la taille du jardin, on peut soit ajouter du CO2, soit mettre plusieurs machines, effectivement.
Et ça coûte, oui, alors, c'est ça. Voilà, ça coûte combien?
Alors, un piège, ça vaut dans les 169 euros. En magasin, et ça se garde très très longtemps. Et après, on a juste ce qu'on appelle donc l'imitateur d'odeur à se reprocurer, et ils ont une durée de vie de 2 mois.
Donc on a une sorte de recharge que l'on peut, voilà, changer régulièrement. Donc c'est des pièges qu'on va trouver, vous dites, en magasin. C'est quel type de magasin?
On va trouver ça dans tout ce qui est jardinerie, magasin de bricolage. On commence à nous retrouver presque dans toutes les grandes enseignes, que ça soit de jardinerie ou de bricolage.
Alors moi j'avais une question, est-ce que là, parce qu'on a parlé maintenant de votre système qui est naturel, lui, il y a pas d'insecticides, mais est-ce que les insecticides justement sont toujours d'actualité dans la lutte anti-moustique? Parce qu'on en trouve dans le commerce.
Alors, de moins en moins, au niveau en tout cas de l'utilisation professionnelle. Après, chez les particuliers, il y a encore un peu d'utilisation, mais comme les molécules évoluent pas depuis plus de 20 ans, on va dire que petit à petit, l'effet qu'avait de rémanence qu'avaient ces molécules au moment où vous les utilisiez dans votre jardin, bah, le moustique est de moins en moins perturbé par cet effet de molécule, et donc repasse la barrière que vous appliquez assez rapidement.
Et quel est l'insecticide le plus efficace aujourd'hui qui crame les moustiques? Il y en a un qui est, on va dire, plus virulent que d'autres?
De toute façon, tous les produits anti-moustiques sont à base de pyrèthre, que ça soit de la pyréthrine de synthèse ou de la pyréthrine naturelle. Donc, ça va être la molécule de base, on va dire, pour lutter contre le moustique.
Et ça, c'est efficace encore aujourd'hui?
C'est encore efficace, mais sans sélectivité. Ouais. Donc, voilà, quand vous passez, c'est tout ce qui est là, y a droit, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. Ça n'a pas tué que le moustique. Voilà.
Heureusement.
Nous avons Naïm au 32-16. Bonjour, Naïm.
Oui, bonjour.
Bienvenue, Naïm.
Merci. Bonjour, Villeurbanne. Tout à fait.
On vous écoute.
Alors, justement, j'ai un petit garçon qui va avoir 2 ans. On est en maison et le problème, en fait, c'est qu'à chaque fois, c'est lui qui est ravagé de boutons de moustiques comparé à nous. Et donc, je voulais savoir s'il y avait des répulsifs naturels, justement, pour éviter ça. Et également, savoir pourquoi, en fait, l'enfant, pour moi, est plus ciblé que nous, les adultes. Merci.
Allez. Il a la peau plus tendre et le sang plus sucré.
Antoine.
Alors aussi, peut-être aussi parce que du coup, s'il bouge beaucoup, il émane beaucoup de CO2. Après, ça peut être aussi juste venir de sa personne. Il y a peut-être que même quand il sera plus grand, ça sera pareil. Il y a des personnes qui sont plus attractives qui ont des odeurs plus attirantes pour le moustique. Des odeurs que nous on détecte pas, hein, mais que le moustique trouve. Et il n'y a pas vraiment d'explication. Toutes les histoires de sucre, etc., ça n'a jamais été vraiment prouvé réellement. On sait que l'alcool, mais je pense qu'à 2 ans, il ne boit pas encore d'alcool. L'alcool rend plus attractif vis-à-vis des moustiques.
Alors attendez, mais Antoine, c'est intéressant. Je bois 2 verres de rosé avant de me coucher, ou j'ai fait une petite fête. Le moustique va plutôt venir vers moi parce que j'ai bu.
Ouais, parce que l'alcool a tendance à dilater vos pores, donc vous allez augmenter votre diffusion d'acide et donc être plus attractif.
Ça alors. Mais il faut en boire beaucoup ou simplement un verre suffit?
Il faut un petit peu d'alcool suffit. Oui, vous buvez une bière, un verre ou deux de vin, ça suffit à vous rendre un tout petit peu plus attractif vis-à-vis du moustique.
D'accord. Alors, Naïm nous demandait s'il y avait des répulsifs naturels. Alors on connaît la citronnelle. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ça va avoir des effets, mais sur des périodes très courtes, et on va avoir besoin de réappliquer le produit assez régulièrement. Dans notre laboratoire, on a testé tous les bracelets, des choses comme ça. On n'a pas vu de résultats vraiment probants. Le meilleur moyen, je dirais, c'est de protéger le jardin en essayant d'éliminer la source déjà, donc en recherchant éventuellement des points d'eau ou des endroits où le moustique pourrait se reproduire. Et après, réfléchir à un piégeage ou quelque chose comme ça. Il existe des appareils qui vont diffuser de la micro molécule de pyrète pour gêner les moustiques, qui vont être efficaces, mais qui, si utilisées en trop longtemps, vont devenir assez onéreux.
Donc il faut faire attention sur les enfants. Par exemple, la citronnelle, pas sur les enfants de moins de 2 ans.
Ah d'accord, c'est toxique.
C'est pas que c'est toxique, mais ils peuvent avoir une réaction allergique, donc il faut faire quand même aussi attention à ça. Donc le système de Biogen, je pense que tout à fait intéressant.
Merci Antoine.
Mais avec plaisir.
Écoutez, vous nous avez appris plein de choses sur les moustiques là, ce matin. Moi, je les déteste. À cause de vous, je les déteste encore plus. Mais vous, je suis sûr que vous les aimez, malgré le fait que vous les combattiez. Je suis sûr que vous les aimez, Antoine.
Oui, c'est un insecte qui est assez passionnant.
Et oui, voilà.
On tombe vite dedans et après on est assez.
On tombe vite dans le moustique.
On tombe vite dans le moustique.
Ça sera le mot de la fin. Merci.
Antoine Cohen, merci beaucoup. Vous représentez donc Biogens qui fabrique ces pièges totalement naturels pour combattre les moustiques et pour les éradiquer dans une zone donnée.
Voilà, on les piège et puis c'est bien. Voilà.
Robert, dans un instant. Patrick, mais auparavant, la météo du jardinier, on y va. Écoutez, c'est le 11 juillet, c'est l'été, c'est les vacances. Et on a peut-être le temps, si on reste à la maison, de s'occuper de notre jardin ou de notre terrasse.